citoyens.
Nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide du mouvement associatif. La République aujourd'hui a besoin d'associations et il faut qu'elle le sache. Et le monde des associations que nous sommes répond aux besoins sociaux de notre République. Sans nous, dans différents domaines, le sport, la culture, l'éducation, l'environnement, la santé, le handicap, la défense des droits, ce serait difficile. Beaucoup de concitoyens dépendent de l'engagement de nous tous. Il est temps que les élus de la nation nous entendent. Notre combat est essentiel pour la République. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la lorgnette. Ça ne tient plus. Tel est le slogan du secteur associatif qui se mobilise ces jours-ci pour tirer la sonnette d'alarme au sujet des lourdes baisses de financement et de la déconsidération croissante des pouvoirs publics. Votre club de sport, votre salle de concert ou de spectacle, la structure d'aide et d'accompagnement de vos proches, et bien sûr votre radio parmi de nombreux autres, sont des associations. Elles sont discrètes, silencieuses, mais œuvrent tous les jours, grâce à ces millions de bénévoles et salariés, à créer du collectif et à bâtir une République libre, égale et fraternelle. Alors, quand les associations appellent à la mobilisation, Studio Zef s'en fait le relais. Au programme, extrait d'une table ronde organisée très récemment par la Ligue de l'Enseignement 41, les paroles de responsables de structures qui nous alertent sur le danger d'une société sans association. Bonne écoute.
Eh ben, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mehdi Lemarec, je suis chargé de mission au mouvement associatif et aujourd'hui à Blois on anime une table ronde sur le sujet de la mobilisation nationale des associations. La table ronde qui se déroule, elle fait un peu histoire aussi, parce qu'à savoir pour la première fois depuis la loi 1901, il y a une manifestation nationale de toutes les associations, peu importe leur secteur, suite aux coupes budgétaires de l'État depuis plusieurs années et sous le mot d'ordre de « ça ne tient plus ». C'est assez simple mais c'est assez évocateur. Donc pour comprendre à quel point ça tient plus pour les assos, mais aussi et surtout les conséquences pour la population française si ça venait à s'effondrer, sont présentes autour de la table des personnes qui sont élues d'associations locales, départementales, régionales, nationales, salariés aussi, parfois les deux, pour traiter du sujet, comprendre à quel point c'est compliqué. Catherine Virbelauer, vous êtes directrice territoriale des actions associatives du 37 et du 41 pour APF France Handicap. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est APF France Handicap et ce qu'elle fait ?
Alors, merci Mehdi pour cette petite présentation. Donc oui, APF France Handicap est une association nationale qui se décline sur tous les départements de France. On est une association de défense des droits des personnes en situation de handicap, créée en 1933. Avec plus de 90 ans d'ancienneté dans la défense des droits des personnes. Et on est autant mouvement associatif que gestionnaire d'établissements et de services médico-sociaux. On voit ce qui se passe dans des établissements et on voit également ce qui se passe au domicile des personnes et la dégradation de la situation des personnes en situation de handicap en France.
Merci Catherine. Rémi Breton. Vous êtes directeur du Château d'Eau à Blois et oui. Co-président de la FRACAMA. Même question, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement le Château d'Eau et puis je laisserai peut-être quelqu'un d'autre présenter la FRACAMA.
Château Casquette, une salle de salariés d'une association. Le Château d'Eau, c'est la scène de musique actuelle de Blois. Donc nous, on va représenter là, avec Jérémy, mon collègue, le côté culture du monde associatif. La FRACAMA, c'est une fédération de filières autour des musiques actuelles pour la région centre qui a été fondée en 1999, voilà, et reconnue pôle régional musique actuelle depuis 2024.
Et du coup, Jérémy Yann, coordinateur de la FRACAMA et membre du bureau de l'UFISC, même question, qu'est-ce que la FRACAMA, si vous voulez en dire un peu plus, et qu'est-ce que l'UFISC ?
Oui, bah, Rémi a bien résumé ce qu'était la FRACAMA, donc voilà, fédération. On regroupe des structures pour penser et agir ensemble. Et on est au bureau de l'UFISC, donc je suis secrétaire de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui fête cette année ses 25 ans. L'Union fédérale, c'est un espace de réflexion et d'action. Sur le champ artistique et culturel, on fédère différentes disciplines artistiques. On va retrouver les arts visuels, spectacles vivants, musiques actuelles. Voilà, c'est assez large. Et l'idée, c'est de travailler sur la dimension économie solidaire des arts et de la culture. On est connecté au collectif des associations citoyennes, au mouvement associatif, au MES. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà, on essaye de faire une courroie de transmission entre différents secteurs d'activité de la société. Merci.
Je vais passer la parole à Jean-Michel Delaveau, président du mouvement associatif Centre-Val de Loire. Si vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est le mouvement associatif Centre-Val de Loire.
Alors, le mouvement associatif Centre-Val de Loire, c'est le regroupement d'un certain nombre de têtes de réseau qui représentent la quasi-totalité des réseaux, notamment employeurs, dans le domaine très différent qui ont déjà été évoqués autour de la table, la culture, le sport, le social, médico-social associatif, l'éducation populaire qui nous accueille sur son stand, la famille rurale et le CRAJEP. Voilà, au total, les associations en Centre-Val de Loire sont au nombre de plus de 57 000. Elle représente le travail de 510 000 bénévoles, ce qui n'est pas rien. Elles ont 65 000 salariés, ce qui représente 9% du total de l'emploi privé en région. Et c'est pour marquer leur importance. Mais il y a tout à l'heure un représentant du national qui vous parlera plus en détail du national.
Merci. Véronique Bury. Vous êtes vice-présidente du CROSS, du Comité Régional Olympique et Sportif. Même question.
Co-présidente.
Co-présidente.
C'est pas grave, non ? Mais nous sommes deux à présider le CROSS. Alors le CROSS, Comité Régional Olympique et Sportif, rassemble et fédère tous les comités départementaux et comités régionaux sportifs. Un peu le rôle qu'a le CNOSF au niveau national en fédérant toutes les associations.
Merci. Gaëlle Payet, vous êtes directrice du mouvement associatif Centre-Val de Loire. Bonjour, est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus à propos du mouvement associatif ou pas ?
Je dirais quelques mots tout à l'heure sur la mobilisation en région.
Et enfin, Martin Bobel, vous êtes administrateur du réseau national des ressourceries. Vous êtes vice-président du mouvement associatif national, mais vous êtes aussi, et c'est l'une des raisons de votre présence aujourd'hui, conseiller du conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous voulez peut-être nous présenter rapidement le réseau national des ressourceries et peut-être le mouvement associatif national en quelques mots ?
Ouais, ça marche. Bah, du coup, bonjour à tous et à toutes. Le mouvement associatif qui est globalement en fait la tête des grandes coordinations associatives et qui fédère aujourd'hui des organisations qui elles-mêmes fédèrent d'autres organisations et au total c'est un peu plus de la moitié des associations françaises qui sont représentées dans ce chapeau. Ça fait à peu près 700 000 associations représentées par le mouvement associatif.
Anaïs Saillot, directrice de la Ligue de l'enseignement du Loir-et-Cher.
Le 3 septembre 2025, la présidente du mouvement associatif national, Claire Toury, a envoyé une lettre à l'ensemble des mouvements, des réseaux et des fédérations que je vais vous lire là parce qu'elle est vraiment explicite et elle explique vraiment pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés. Nous nous engageons dans nos associations pour permettre à 67 millions de Françaises et de Français d'accéder aux soins, au sport, à l'éducation, à la culture, aux droits. Nous permettons au plus grand nombre de partir en vacances. Nous luttons contre la précarité, contre l'isolement. Nous défendons l'environnement, etc. Nous sommes partout et agissons dans tous les territoires, du premier au dernier kilomètre, dans toutes les sphères du quotidien. Et pourtant, nous traversons une crise sans précédent. Depuis plusieurs années, la situation du monde associatif se dégrade dangereusement, dans un silence assourdissant, malgré nos alertes répétées. Les besoins, quant à eux, ne cesse d'augmenter. 2,4 millions de personnes sont concernées par l'aide alimentaire. 2159 enfants dorment à la rue, dont 503 ont moins de 3 ans. Le taux de pauvreté qui augmente pour la première fois depuis 1996. Les exemples ne manquent malheureusement pas. Dans le même temps, les moyens diminuent. En 15 ans, la part des subventions a baissé de 41% dans le budget des associations et près d'un tiers déclare revoir les activités à la baisse pour survivre. Malgré cela, ce sont 70 000 associations qui se créent chaque année. Qu'importe l'inflation, la diminution des financements des collectivités, la suppression des emplois aidés, la diminution du nombre de volontaires en service civique, les budgets qui s'effondrent ou les menaces sur les libertés associatives, les associations continuent de faire preuve d'une résilience remarquable. Affaiblir les associations n'a pas de sens. Elles sont des espaces qui changent au quotidien la vie des gens. Elles offrent du pouvoir d'agir, construisent des solutions concrètes adaptées aux besoins des populations parce que directement pensées par elles. Elles renforcent les liens sociaux, donnent du sens, permettent de faire collectif. Elles sont un remède à la crise démocratique que l'on traverse et méritent mieux que du mépris ou de la défiance. Notre tissu associatif est quelque chose de merveilleux, un bien commun qui nous rend fiers et qui ne doit pas être sacrifié par les coupes budgétaires. Merci.
Donc l'appel à mobilisation générale lancé par Claire Toury, la présidente du mouvement associatif national, et il semble que ça faisait longtemps que les associations l'attendaient, puisqu'en moins d'un mois, il y a plus de 300 événements, mobilisations, forums, villages associatifs, tables rondes, qui ont été annoncés. Martin, pour rentrer dans le vif du sujet, avec Dominique Joseph, vous avez produit un rapport qui a amené le CESE à lancer un appel pour le renforcement du financement des associations, qu'il a qualifié, je cite, d'urgence démocratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où proviennent les raisons de cette situation financière qui est intenable pour les associations, les constats qui ont amené le CESE à émettre cet appel et l'ampleur de cette urgence démocratique ?
Ça marche. Alors peut-être, juste pour reprendre un peu de recul, le CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, c'est la troisième chambre constitutionnelle de la Ve République. Donc en gros, c'est la chambre après le Sénat et l'Assemblée qui est censée représenter la démocratie sociale. C'est-à-dire que dans cette chambre siègent syndicats, patronats, organisations environnementales, interprofessions et associations. Voilà, cette chambre, elle conseille l'action publique. Donc son boulot, c'est d'analyser des problématiques de société et de faire des propositions d'évolution de politique publique, mais pas que. Et c'est une chambre qui vote la plupart de ses travaux, enfin même la totalité de ses travaux. Et donc, à l'intérieur du CESE, on a décidé de faire un travail sur les associations, particulièrement au moment où on recevait un certain nombre d'appels. Le gros appel qui a vraiment marqué le coup pour le CESE, ça a été l'appel des Restos du Cœur. Mais en gros, on se retrouvait dans une période un peu contradictoire, où globalement les associations se sont retrouvées en première ligne pendant la crise Covid, beaucoup considérées aux côtés d'un certain nombre de services publics comme ayant été essentiels dans ce moment de crise. Et puis à la sortie de cette crise, les associations se sont retrouvées, un, face à une crise inflationniste, donc augmentation des dépenses, et deux, face à une crise sociale. Globalement, l'inflation a poussé un certain nombre de personnes dans le champ de la pauvreté ou a augmenté les besoins d'un certain nombre de personnes. Et les associations se sont encore retrouvées en première ligne d'accueil de ces populations-là, sans réponse claire du gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, enfin du gouvernement, et même, je pourrais parler de manière générale, des pouvoirs publics. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, c'est eux, on se saisit du sujet et on va le traiter. On a tiré un certain nombre de constats, je vais vous en parler un petit peu si vous voulez à la sortie. Mais le message final du CESE, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que derrière le sujet des associations, on peut assez facilement les observer pour ce qu'elles vont produire, c'est-à-dire pour les biens et les services qu'elles vont apporter aux gens. Et déjà ça, c'est assez monumental de se rendre compte à quel point elles sont partout, à quel point elles sont dans la vie de tout le monde. Mais en fait, sur le fond, quand on les observe de près et de loin, on observe que c'est avant tout un enjeu démocratique. Constitutionnellement, on a instauré le fait associatif comme étant l'objet de la mobilisation des citoyens pas toujours pour l'intérêt général, mais ça, ça a été un de nos sujets traités. On s'est concentré sur les activités d'intérêt général associative. Mais de manière générale, on s'est dit qu'il faut observer les associations en dehors de leur objet productif et du coup au travers de, je dirais, leur rôle de pilier démocratique dans notre société. Et c'est de ça, en gros, qu'on a réussi à se mettre d'accord, parce que le CESE, globalement, c'est la composition d'organisations de droite et de gauche. Et on s'est mis d'accord sur les sujets budgétaires en plein milieu d'une crise budgétaire, ce qui n'était pas fastoche. Et on s'est mis d'accord pour dire, un, il faut plus d'argent, et deux, il faut réformer la manière avec laquelle on donne l'argent. Voilà. Donc, globalement, notre constat général, c'est-à-dire, c'est pas du tout malin de faire des économies budgétaires sur les associations. Un, parce que les fermetures d'associations risquent de coûter plus cher, mais aussi, derrière, parce que si on inscrit une vision long-termiste, la période que nous traversons, qui est une période de crise démocratique, va nécessiter un certain nombre de piliers qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Et donc, sur cette base-là, on a réussi à se mettre d'accord avec le patronat, avec les syndicats, mais avec des interprofessions comme la FNSEA, sur la nécessité de préserver le tissu associatif sur le fond d'une approche démocratique. Le message final de ce travail, c'était un appel en écho des appels des associations. Donc on a pris le temps d'écouter, on a pu auditionner beaucoup de monde, des économistes, des sociologues, des responsables associatifs, des bénévoles, des bénéficiaires, et puis on a recueilli la parole des associations, on a fait une grande enquête avec plus de 6000 réponses d'associations, c'était très riche. De ça, on a tiré un certain nombre de constats pour ensuite faire des propositions. Peut-être je vais vous donner un exemple de ce qui se joue aujourd'hui. On parle beaucoup de budget. C'est quelque chose d'important, on parle de montants, des montants que notre société accorde au monde associatif, mais derrière, on s'est rendu compte qu'il y a eu des changements structurels les 20 dernières années, et principalement de la manière avec laquelle on donne 1 euro d'argent public. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des montants que notre société accorde, la manière avec laquelle on accorde cet argent-là a beaucoup changé, et elle a changé dans un sens particulier, qui est ce qu'on appelle un sens de marchandisation. C'est-à-dire qu'on a transformer progressivement une politique de financement par la subvention, qui était une politique ascendante. Alors en gros, la subvention, elle est fondée sur un principe, les associations s'organisent pour répondre à un problème et font appel au système redistributif pour pouvoir mettre en œuvre des réponses. Voilà. On a une logique de politique publique ascendante où on donne la place à la société civile pour répondre à des enjeux d'intérêt général. Et on a transformé cette subvention en commande publique, c'est-à-dire en gros ce sont les pouvoirs publics qui décident des besoins et qui vont décider de ce que vont faire les associations. Et donc avec un risque de dépossession de la capacité d'initiative, mais aussi de la capacité d'expérimentation des associations. Et ça c'est un changement de paradigme profond, parce que un, on passe d'une logique ascendante à une logique descendante, donc sur le fond démocratique ça pose un certain nombre de problèmes, et puis ensuite ça génère un grand paquet d'effets de bord, principalement de découragement, mais aussi de perte de diversité d'initiative, mais aussi de perte de liberté. Sur le fond, on observe que ce changement de paradigme, qui est en fait un changement de marché, on pourra en parler plus tard si vous le voulez, quelque part dépossède les associations, un, de leur capacité d'initiative, je le disais tout à l'heure, mais deux, de leur parole politique. Voilà. Et donc on a là, quelque part, un processus d'érosion de la capacité d'interpellation et de la capacité politique des associations à œuvrer pour l'intérêt général et à œuvrer dans la société. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème d'argent, mais il y a aussi un problème de règles et de cadres, de manière avec laquelle on distribue cet argent, mais aussi de culture, hein, parce que progressivement, cette culture de la mise en opérateur de services, c'est-à-dire de dire les associations vont faire ci, vont faire ça, ça génère une culture où on ne s'attend plus à ce que les associations ne soient pas d'accord, mais aussi où est-ce qu'on ne s'attend plus à ce que les associations fassent autre chose que ce qu'on leur demande. Voilà. Et là, quelque part, il y a un risque de glissement qu'on a vu très marqué en 2021, parce qu'en 2021, il y a eu une règle, une loi qui s'appelle le contrat d'engagement républicain, enfin, dans une grande loi, on pourra en parler si vous le voulez, mais qui a été perçue comme un objet de défiance et qui permet à l'État de supprimer des subventions données par une mairie si toutefois les associations menaçaient de troubles à l'ordre public. Et ce sujet de menace de troubles à l'ordre public étant très flou, on s'est rendu compte que souvent les préfets intervenaient quand on n'était pas d'accord avec les associations pour leur retirer des subventions. Donc quelque part, ce climat de défiance qui s'instaure a été analysé par le CESE comme en fait la résultante d'un processus de, quelque part, de, voilà, d'essentialisation de l'association à ce qu'elle allait produire et plus à ce qu'elle était pour la démocratie et pour la société.
Bonjour Virginie, je suis directrice d'une association sur Blois qui s'appelle l'ALEP, Association de loisirs et d'éducation populaire. On voit sur 15 ans, 20 ans la dégradation du milieu associatif, en sachant que les associations sont quasiment le premier délégataire des services publics de l'État. Donc les associations répondent à un besoin de solidarité. Et ça c'est depuis au moins 30 ans dans les politiques publiques, que si aujourd'hui on réduit encore la part du monde associatif, c'est qu'on réduit la part de la solidarité envers les plus démunis. On est dans un taux de pauvreté qui est pas inégalé, mais quasiment depuis 1996, enfin, il y a une augmentation. Ceci dit, on est victime, mais on est aussi acteur, hein, parce que les associations ont joué le jeu de cette délégation. Et depuis les années 80, dans des logiques gestionnaires, rationnelles, sur le mode entreprise. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'association. Dans l'univers de l'économie sociale et solidaire, on parle d'entreprise. Donc on est sur le vecteur de l'entreprise. Et donc on voit ce basculement. Là, depuis une quinzaine d'années, encore plus, on passe modèle associatif au modèle de l'entreprise. Comment retrouver, je ne sais pas si on l'a déjà trouvé d'ailleurs, un système qui permette de répondre à l'ensemble des besoins d'une population sur un territoire donné. Comment on se pose la question du bien commun ensemble. Le milieu associatif est en partie, en tout cas, c'est en partie une de ses missions de répondre ou en tout cas de se poser la question de ce bien commun. Et ça devient compliqué puisqu'elles sont elles-mêmes dans des logiques d'entreprise.
Pour se rendre un peu compte dans le concret de ce que ces coupes budgétaires génèrent dans le quotidien des petites assos, mais aussi et surtout des personnes concernées par ce que toutes ces assos font, je voudrais vous demander à vous, Véronique, vous avez organisé, le CROSS a organisé une conférence de presse le 11 septembre pour tirer la sonnette d'alarme sur la chute drastique du budget des sports. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau des impacts qu'ont eu ces coupes budgétaires pour les clubs sportifs, mais aussi pour les gens qui bénéficient de leurs activités ?
Alors, on va se replacer dans le contexte. Hein. On était début septembre dernier, un an après la clôture des Jeux paralympiques. Pendant toute la préparation des Jeux, on nous a promis un héritage. Alors, je suis peut-être naïve, mais je me disais que l'élan allait renforcer le sport. Eh ben non. Et je vais illustrer un peu le propos qu'a eu Martin. Le sport, c'est vraiment la déclinaison des politiques publiques. C'est-à-dire que le sport, les clubs, hein, le club où vous avez inscrit votre môme, où vous pratiquez vous-même, enfin, il doit renforcer la citoyenneté, faire une politique de santé, inclure, et il n'a plus de crédit de fonctionnement. Il ne répond plus qu'à des appels à projets pour inclure plus de femmes, pour qu'il y ait plus de femmes dans le sport, pour qu'il y ait plus de femmes dirigeantes, pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir des pratiques sportives, ce qui est tout à fait légitime. Ce n'est pas du tout sur le fond que j'interviens, mais le quotidien d'un club de sport, c'est-à-dire pouvoir emmener les gamins pour faire leur match à 20 km, ben ça, c'est plus financé. Et on nous dit, il faut se tourner vers le privé. Sauf que le privé, il n'a pas du tout envie de financer le petit club de tennis de table de la Chaussée Saint-Victor. Voilà. Donc ça nous pose de gros problèmes. Pour illustrer vraiment ce qui se passe au niveau des clubs sportifs, le monde du sport représente à peu près 8000 clubs dans la région Centre-Val de Loire, 4000 emplois pour 600 000 personnes accueillies de façon fédérée, plus tous les autres, ceux qui viennent de façon occasionnelle. On a un enjeu de santé publique sur lequel on est très conscient, parce que la lutte contre la sédentarité, ça passe par l'activité physique et c'est vraiment ce qu'on propose. Le budget national du sport est inférieur au budget du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le sport pour tous, c'est moins qu'un club de foot qui arrose quelques personnes. Pour nous, c'est inadmissible. L'autre paradigme qui nous a fait sursauter et qui nous a mis en mouvement dès le 11 septembre et dès la fête du sport qui était proposée par l'État, c'est le fait que le passeport, c'est-à-dire la possibilité pour les enfants de milieux modestes d'avoir une contribution pour payer leur licence, n'était plus offert aux enfants de 6 à 13 ans. C'est-à-dire que l'âge où on devient sportif, où on comprend qu'une activité physique tout au long de la vie, c'est indispensable à son bien-être, eh bien, on ne peut plus. Pour ces jeunes enfants de milieu modeste, la possibilité d'avoir le petit bout qui leur permettait de payer leur licence ne leur est plus offerte. Et dans une famille de milieu modeste, encore une fois, qui va en pâtir en premier? Les petites filles. Parce que un garçon, ça a besoin de se dépenser, la fille, tant pis. Donc, c'est discriminant, c'est scandaleux, et ça va avoir des conséquences à moyen terme, parce que ces enfants qui ne feront pas de sport, ça va être des malades potentiels qui vont arriver.
Oui, et puis aujourd'hui, tout de suite, c'est du coup toute une partie de la population de 6 à 13 ans qui ne peut plus...
qui ne peut plus accéder à un club. Mais ça veut dire que c'est aussi pour les clubs une grosse perte de licenciés. Et comme ils touchent leur subvention du CNOSF, enfin via leur fédération, en fonction du nombre de licenciés, et ben voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc ils toucheront moins d'argent aussi.
Merci pour ces éclairages. Rémi, Jérémy, vous êtes présenté tout à l'heure.
Oui.
On sait que le secteur de la culture, en tout cas on entend parler dans les médias nationaux, est très fortement impacté par les réductions budgétaires. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est tout ce que ce secteur représente. Ce que ça implique pour la musique et peut-être pas que les grands artistes qui remplissent Bercy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, effectivement. Je vous rejoins à fond. On a la même problématique. C'est pas le passeport, nous, ça va être passe culture, par exemple, qui est arrêté dans l'échange que nous pouvions y avoir avec les établissements scolaires, puisqu'ils étaient financés en partie. Et comme on a un gros travail de fond, parce qu'on fait pas que des concerts, on fait la majeure partie de l'activité, c'est de l'action culturelle auprès de tous les publics et du coup une immersion à la culture par le biais de l'action culturelle. Donc ça c'est un des faits. L'idée de la commande, c'est ce que nous sommes en train de vivre au fur et à mesure, ça rentre tout doucement. C'est très lamentable en fait ce qui se passe à l'échelle nationale. Je peux pas dire, moi j'ai la chance d'avoir Madame Dati comme ministre et je pense que on se comprend pas exactement, mais je vais vous donner un exemple de ce que le ministère a mis en place. Nos financements baissent un petit à petit, ce sont des coups de canif, mais la vie est de plus en plus chère et de plus en plus compliquée. Ils ont mis en place un projet qui n'est pas une commande. D'après eux, c'est mieux produire pour mieux diffuser. C'est valable pour tout le secteur culturel. Il n'y a pas que la musique. Je n'ai pas envie de représenter que ma petite maison. Et mieux produire pour mieux diffuser, c'est on nous donne de l'argent si on s'entend avec d'autres pour éviter qu'il y ait une gabegie financière à créer des spectacles. Ce qui fait que ce soit en théâtre, en marionnette, en musique. Aujourd'hui, l'État considère que tous les créateurs dépensent de l'argent pour rien parce que certains spectacles ne jouent pas. Mais il faut bien tenter de faire des choses. Et on nous incite à mieux produire, mieux diffuser, c'est-à-dire à se réunir, à faire qu'un projet. Là, on touche le financement, on le répartit, mais ça ne concerne plus qu'une compagnie de théâtre ou qu'un groupe de musique. Ce n'est pas 30 ou 50 propositions qui pourraient être sur le terrain. Et je vais passer la parole à Jérémy après, mais juste, j'ai pris quelques notes parce que sinon j'avais peur de dire des chiffres erronés, mais les entreprises culturelles en région Centre-Val de Loire, puisque ça nous concerne, 69% des entreprises culturelles, ce sont des associations. Donc déjà, le reste de la culture, on peut se poser la question, d'autant plus qu'il y a 18% qui sont des personnes physiques, des créateurs, des gens en auto-entreprise,
des gens... professeurs.
Oui, oui, oui. Et donc 69 plus 18 plus après des petits pourcentages des collectivités, etc. Il n'y a plus que 9% qui sont du privé. Et il s'accapare une grande partie des financements. Parce que la culture en Centre-Val de Loire, puisqu'il y a Métier Culture, qui est une association qui gère tout le secteur, puisque j'avais plutôt l'intention de parler de la culture, c'est 10 700 salariés et 4 900 intermittents. Voilà, des gens qui œuvrent pour la culture et dans le côté associatif. Et aujourd'hui, sur les 1665 associations employeuses en culture, il y a déjà, on a fait une enquête au mois de juin, 393 emplois qui sont menacés, qui vont disparaître dès cette année. Voilà. Donc la journée de demain, je pense qu'elle est importante. Et voilà, on est sur la place Jean Jaurès, c'est quand même... c'est pas rien quand même pour nous qui baignons là, dans la culture ou dans le monde associatif. Je crois que les gens, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils peuvent perdre. Et ce que tu disais, Martin, c'est que maintenant, on est dans une société de commande et que les initiatives sont en train de disparaître. Soit on décide de ne pas répondre à la commande et on n'est plus financé, soit on a la commande et on est plus libre de faire ce que nous voulons.
Oui, ben on va dans le même sens que ce qui a pu être dit. Merci à Martin, encore une fois, pour le travail avec ce rapport qui est précieux, qu'on a accueilli vraiment avec, alors paradoxalement, avec joie à l'UFISC, parce que ce qui est dit dedans, c'est pas joyeux. Mais par contre, de le faire, de l'objectiver, c'était vital. Vital pour plein de raisons, je vais développer. Ce qu'on constate, mais c'est autant vrai pour les arts et la culture que pour le social, la santé, le sport, etc., c'est qu'il y a une prise en étau, un effet ciseau, c'est-à-dire qu'il y a une non-augmentation des dotations, des subventions aux associations qu'on constate depuis une vingtaine d'années. Alors il y en a qui sont augmentées, il y a des nouveaux projets, etc., mais globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plutôt une stagnation, voire des baisses dans les financements publics. Mais au regard de ça, il y a 40% d'inflation en 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, rien que sur cette mécanique, une perte de capacité d'action des associations. S'ajoutent à ça les crises multiples qui sont enchaînées. Et là, la dernière, le passage entre 2024 et 2025, les baisses de dotation aux collectivités locales et baisses du ministère de la Culture, mais comme des autres ministères. Pour donner un ordre d'idée, hein, le ministère de la Culture, c'est 4 milliards environ, à peu près, et le financement de la culture par les collectivités locales, c'est 10 milliards, sans compter ce qui est indirect, sur l'éducation artistique et culturelle, etc. Là, c'est vraiment sur les chiffres culture. Et avec l'UFISC, on travaille avec l'Observatoire des politiques culturelles, Vincent Guillon, qui a fait un travail justement là en début d'année et qui a abouti à ce chiffre de 50% des collectivités locales qui ont baissé leur budget culture. Ça peut être sur des proportions plus ou moins fortes, mais on a quand même la moitié des collectivités locales, donc municipalités, communautés de communes, départements, régions, qui ont baissé leur budget culture. La particularité, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que la culture est ce qu'on appelle une compétence partagée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune collectivité qui a l'obligation de soutenir la culture. Elle est dite partagée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelons de collectivités qui peuvent intervenir dessus.
Je me permets une question. On est d'accord que vos activités, enfin les activités culturelles portées par des associations sont très majoritairement bénéficiaires pour des personnes à revenus modestes, voire pauvres, et que très concrètement, si ces assos ne sont plus là pour mettre en place des actions qui ne seront pas remplacées, en gros, la culture ne sera plus qu'au foyer aisé. La pratique de la culture, l'appropriation de la pratique culturelle ne sera plus que destinée au foyer aisé.
Exactement. Que ce soit l'apprentissage de la pratique d'un instrument, de la découverte, que ce soit de se retrouver dans un espace collectif, que ce soit une salle de concert, que ce soit un festival, parce que au-delà de l'aspect découverte et épanouissement par les arts, c'est aussi se retrouver ensemble. Et c'est là où l'importance démocratique des associations elle revient. C'est-à-dire que les associations en elles-mêmes sont des espaces démocratiques où on fait l'expérience de la démocratie, mais c'est aussi des espaces qui permettent de créer, de multiplier des espaces où on fait démocratie. La démocratie, c'est jamais quelque chose de figé, c'est toujours quelque chose qui est en tension, qui est en travail, et de permettre à des associations de créer ces espaces de démocratie, c'est vital.
Rapide. En 2023, l'État français était condamné pour non-respect des droits des personnes en situation de handicap par le Conseil de l'Europe. En 2024, l'enquête menée par l'émission Zone Interdite, Scandale et défaillance de l'État, les dossiers noirs du handicap, met en lumière les situations dramatiques causées par le manque d'engagement de l'État et dénoncées notamment par l'association APF France Handicap depuis des années. Dernier élément, ce 11 février 2025, c'était les 20 ans de la loi du 11 février pour l'égalité des droits et des chances. Catherine, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est quoi la réalité pour les équipes d'APF France Handicap, pour les structures que APF fédère, et aussi et surtout pour les personnes concernées ?
Juste pour vous dire pourquoi la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe, en tout cas pour violation des droits humains, je le lis, hein. On a été condamné, la France a été condamnée, parce que le Conseil d'Europe souligne les services de soutien, l'importance des services de soutien, aide ménagère, les auxiliaires de vie, et j'en passe, pour une bonne mise en œuvre du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté de personnes en situation de handicap et de tout citoyen, en fait. Donc l'association se bat pour que les personnes en situation de handicap soient des citoyens à part entière, qu'elles puissent avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités également, qu'elles puissent tendre vers une autonomie la plus grande possible. Mais pour cela, en effet, on mise aussi sur la solidarité. Et les associations ont depuis toujours été le centre de la solidarité, en tout cas une manière de promouvoir la solidarité sur le terrain, mais pas que. L'État est également garant de la compensation au handicap et de la solidarité nationale envers tous ses citoyens, et ça, y a une grande défaillance là. Quelques chiffres quand même. Nous, depuis 15 ans, on constate 41% de financement en moins pour les associations, en tout cas du médico-social et du social, mais c'est peut-être le même constat au niveau national pour toutes les associations. Donc 41% en 15 ans, c'est quand même énorme. Comme vous le disiez, dans le cadre d'une crise de l'inflation, et ben ça donne une crise sociale au final et un appauvrissement de tous les citoyens, dont les personnes en situation de handicap également. Pour nous, ça correspond à une personne sur trois qui souffre de solitude. Pourquoi ? Parce que les associations comme la nôtre interviennent au domicile pour pouvoir aider les personnes à sortir de chez elles parfois. Et que bah, si on nous baisse les moyens, on pourra aller vers d'autres, moins de personnes. Et si on va vers moins de personnes, eh bien, on pourra moins les sortir et ça crée de la solitude. Donc toujours une personne sur trois, c'est énorme. Et puis 53% des personnes en situation de handicap ou de personnes ayant besoin de soins renoncent à ce soin, ce qui est énorme également. Je rejoins un peu ce que vous avez dit et surtout l'intérêt que nos associations ont dans la vitalité démocratique de notre pays et dans cette défense des droits de tous à l'accès au sport, à l'accès à la culture, à l'accès à une vie sociale, à l'accès à la citoyenneté. Donc la loi de 2005, pour nous, les 20 ans de la loi, on ne les a pas trop fêtés en fait. Parce que pour les personnes en situation de handicap, l'accès au logement, ça reste un combat. L'accès à l'emploi, n'en parlons pas. L'accès à une scolarité digne, c'est compliqué. Les formations après la scolarisation restent difficiles. La précarité augmente énormément. Et donc la précarité des personnes en situation de handicap augmente. Et nous, les associations, comme il y a des coupes budgétaires importantes ou qu'on n'a plus le droit de répondre aux besoins qu'on repère sur le terrain, mais qu'on doit s'aligner aux besoins repérés, soi-disant, par les plus hautes instances, eh bien, on n'arrive plus vraiment à répondre aux besoins des personnes. On est tiraillé entre le besoin de pouvoir financer et continuer à œuvrer, malgré tout, et le besoin de répondre à des réalités. C'est compliqué et j'ajouterais, c'est compliqué non seulement parce qu'il y a une diminution des financements, mais également parce que on constate une diminution de l'engagement et donc du bénévolat dans nos structures, ce qui nous permet également d'intervenir auprès du plus grand nombre. Dans les faits, à quoi ça correspond ? Ça correspond à des personnes qui restent chez elles, parfois couchées toute la journée, sans avoir personne qui intervient pour les laver, sans avoir personne qui intervient pour leur donner à manger, sans avoir personne qui intervient pour les aider à la toilette. Donc des personnes qui, non seulement sont dans une précarité financière, mais qui arrivent à se retrouver dans une précarité totale, dans un isolement total. Des personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis des mois, voire des années, parce que les logements ne sont pas adaptés, qu'il y a une panne d'ascenseur, qu'on ne peut plus les descendre, qu'on ne peut plus intervenir pour les faire descendre de 4 étages ou même d'un seul étage, ou des situations... Enfin, bon, je vais pas faire un topo trop dramatique, mais c'est dramatique. Et on est en 2025. Et les associations, elles ont toujours eu ce rôle de pallier au manquement de l'État. Et aujourd'hui, non seulement, il y a un manquement de l'État, clairement, sur la précarisation des personnes en situation de handicap, mais en plus, les associations, malgré le fait qu'on essaye d'intervenir, on n'a pas baissé les bras, on n'a plus les moyens d'intervenir comme on le faisait. Mais que fait-on ? Où va le monde ? Que fait-on de nos concitoyens qui ont besoin de nous ? Pour toutes les raisons que vous avez dites et pour celles que je dis également. Donc voilà, nous on reste très inquiets, on est très inquiets, on s'associe totalement à la mobilisation du mouvement associatif, que ce soit localement ou au niveau national bien évidemment.
Je suis Loredana Méchin, directrice de l'association Maison de Bégon qui est située dans les quartiers nord de Blois. Je suis là aujourd'hui parce que pour moi le monde associatif est vital dans notre société et ça depuis très longtemps et je pense qu'elles seront vitales aussi pendant encore très très longtemps. Alors aujourd'hui, c'est compliqué pour les associations, mais je pense que les usagers n'en ont pas encore conscience parce qu'on continue d'agir, on partage quelquefois nos inquiétudes avec eux, mais je ne suis pas sûre que, notamment les nôtres, qu'ils soient conscients des dangers qu'il peut y avoir. Certains oui, mais la plupart non. Donc peut-être que c'est aussi notre rôle aujourd'hui de les alerter. On ne les alerte pas encore parce qu'on veut rester positif, c'est important. Nos usagers, ils ont besoin, parce que la vie, elle n'est pas simple. Les inquiétudes sont partout. Et donc, si on franchit la porte d'une association dans laquelle on se sent bien, je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'entendre des choses pessimistes. Donc, voilà, c'est une vraie question à se poser. Comment les sensibiliser sans les alarmer? Comment les mobiliser? On se verra peut-être autour d'un autre rendez-vous pour ça. Dans notre association, nous avons des adhérents qui profitent de pratiques régulières ou de spectacles, etc. Mais on reçoit aussi beaucoup d'usagers, c'est-à-dire beaucoup d'habitants, notamment des quartiers nord de Blois, qui franchissent la porte sans être adhérents. On répond à leurs besoins, à leurs attentes sans être adhérents. Donc pour moi, un usager, c'est tout. C'est à la fois l'usager lambda, mais aussi les adhérents. Ce n'est pas que ça, une association. Aujourd'hui, on mesure souvent la force d'une association avec son nombre d'adhérents, mais je ne suis pas d'accord. On touche beaucoup plus de monde que ceux qui règlent une adhésion.
Merci. Voilà.
Jean-Michel, vous êtes président du mouvement associatif Centre-Val de Loire, qui a organisé une conférence de presse hier devant les journaux et télé de la région pour défendre notamment un modèle de société mixte, propre à notre histoire et nos valeurs, qui est sérieusement mise à mal par la marchandisation à vitesse forcée des services essentiels. Il y a une enquête récente de l'Observatoire des inégalités, de la vie associative, pardon, qui nous apprend que plus de 40% des associations, ce que vous nommiez tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, s'auto-censurent dans leur prise de parole ou mise en place de projets par peur de représailles d'une administration qui n'est politiquement pas en accord, soit via des baisses de financement, soit via des contrôles, notamment via le contrat d'engagement républicain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, Jean-Michel?
En arrivant ici tout à l'heure, je suis tombé sur le journal local La Nouvelle République et un des principaux articles concernant justement les rendez-vous de l'histoire est titré « Le modèle français en question ». J'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait bien vu, puisque je voudrais, sans paraphraser ce qui était dit par les uns ou les autres, insister justement sur ce point. Le système associatif fait que en France, il existe un modèle d'économie mixte et qui n'existe pas d'ailleurs beaucoup ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe, il y a effectivement beaucoup d'associations, mais ce sont plus des associations sur le modèle caritatif que des associations ici en France dont beaucoup exercent des missions de service public. Et ça change tout. Pourquoi voulez-vous que des gens se deviennent bénévoles alors qu'on leur demande dans le secteur associatif, notamment dans celui dont je suis originaire, le social et le médico-social à but non lucratif, on leur demande en fait d'exécuter ce que d'autres ont décidé à leur place. Ce qui est un retour absolument incroyable. Le secteur social et médico-social, en France, il a été créé par les associations pour faire face à la carence, à l'époque, des pouvoirs publics. Alors c'est très très bien que les pouvoirs publics se soient intéressés à ce domaine et aient de plus en plus prise de place, mais ça ne peut fonctionner que si le modèle original persiste. Et ce modèle original, actuellement, il est remis en question et c'est l'une des deux grandes raisons de notre implication dans les manifestations de demain. L'autre grande raison, si je peux le dire en quelques mots, c'est de dire qu'on n'a plus assez d'argent et qu'on n'a aucune honte à avoir à en demander au moins autant, sinon plus. Hein. Parce que autrefois, quand j'étais membre du Césaire de la région, il y avait des gens du premier collège, c'est-à-dire le collège employeur, qui nous regardaient, nous associatifs, et disaient oh ben oui, mais vous êtes des récepteurs de subventions, vous ne faites que ça. En fait, vous n'avez aucune activité réelle économique. Mais je leur dis, mais vous rigolez. Vous plaisantez. Non seulement on n'est pas des quémandeurs de subventions, mais on est des acteurs de l'activité économique. Hein. En France, il y a 8 établissements médico-sociaux sur 10 qui sont des établissements associatifs. Un EHPAD sur 5. Et un service d'aide à domicile sur 2. Bon, on n'est pas du tout des quémandeurs de subventions. On est des acteurs qui mettent en place des politiques de solidarité. Et je pense que, de ce point de vue-là, supprimer de l'argent, ça veut dire supprimer des activités. Et est-ce qu'on va quoi ? On va supprimer un établissement médico-social ? On va supprimer un service d'aide à domicile ? Alors, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Donc, ceci pour dire que il ne faut plus que le secteur, notre secteur, soit soumis à des gens qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont simplement des gestionnaires. Et je le dis d'autant plus que, comme beaucoup de gens dans le secteur associatif maintenant, nous avons des responsabilités de gestionnaires que nous assumons, mais qui ne doivent pas, et qui sont là au service de ce que nous faisons, et non pas le but de ce que nous faisons.
Est-ce que vous voulez peut-être avoir un mot de la fin avant qu'on mette fin à cette table ?
Juste pour dire, parce qu'on fêtait les 25 ans de l'UFISC là, en début de semaine, et notre coprésidente a eu ces mots, je trouve très justes, c'est on est enragé, on a la rage. La rage est parfois peut-être plutôt sourde pour l'instant, en tout cas elle se met un peu plus au grand jour. La rage notamment de parfois se sentir comme plus royaliste que le roi sur l'intérêt général. De penser plus à l'intérêt général que ceux qui sont mandatés pour ça, d'être plus dans le prendre soin des uns, des unes et des autres que ceux à qui on confie des mandats pour le faire.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que les associations, souvent on est gentil, là c'est gentil aussi ce qu'on fait, c'est super. Maintenant, moi je pense que malheureusement il faut en arriver à quelque chose d'un peu plus sérieux pour que vraiment on soit entendu. Et entre autres, on avait évoqué, quand je dis on, c'est le mouvement associatif et puis tous les réseaux qui y appartiennent, de peut-être faire une journée noire, c'est-à-dire une journée complète où les assos, elles font rien, sauf évidemment le minimum vital pour que les gens ne se retrouvent pas sans manger, par exemple. Mais pour montrer que vraiment, sans les associations, ça ne tient plus et même notre société, elle ne fonctionne plus du tout. C'est-à-dire, on fait quoi quand on ne peut pas déposer son enfant au périscolaire ? On fait quoi quand on ne peut pas avoir quelqu'un qui vient s'occuper de sa grand-mère, etc., etc. Et moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, même si déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les assos ensemble réunies, c'est déjà vraiment très, très, très bien et très positif. Et merci beaucoup aussi à vous de vous être rendu disponible aujourd'hui.
Moi, je dirais, premier constat, c'est la première fois. C'est la première fois que toutes les fédérations associatives, les grandes fédérations associatives fédérées aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui restent en dehors de l'espace fédéral du mouvement associatif, décident de se bouger ensemble pour dire quelque chose en commun. Ça s'est jamais fait de l'histoire. Donc, moi, je dirais déjà, à partir de là, je pense qu'on a mis les pieds. Voilà, quelque part on fabrique la première marche de quelque chose qui certainement devra s'accentuer. On fait cet événement dans un moment où on ne connaît pas le futur politique et l'enjeu est double. C'est un, appeler les citoyens et donc prendre le temps d'expliquer à tout le monde que le sujet associatif concerne tout le monde et que c'est pas un sujet de gauche, que c'est pas un sujet de droite. Et c'est aussi un des sujets importants dans le mouvement associatif, c'est qu'on a des associations qui sont le reflet de la société française. C'est pas une fédération uniforme sur le plan politique, donc il faut aussi trouver nos moyens d'action qui nous conviennent bien. Mais en gros, un, pouvoir dire à tout le monde qu'aujourd'hui il y a besoin d'un sursaut collectif, politique, citoyen, militant. Et puis deux, fabriquer l'infrastructure du futur. On est des millions concernés par les associations. La France entière est concernée, mais on est 1,8 million de salariés, 20 millions de bénévoles. Si à nous tous, on s'organise pour faire monter une forme de pression ou un certain nombre de rapports de force pour que les choses changent, on a la capacité de le faire. L'enjeu maintenant, c'est comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début où, pour la première fois de l'histoire interfédérale associative, tout le monde se met d'accord à l'unanimité pour y aller. Voilà.
Merci à vous tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. On espère ne pas avoir à réorganiser ce genre de table ronde pour traiter de ce même sujet. Mais si jamais c'était nécessaire, on le fera.
Merci d'avoir écouté cette lorgnette. Renseignez-vous auprès de vos responsables associatifs pour en savoir plus sur les mobilisations et sur la suite de ce mouvement. Studio ZEF également s'en fera le relais très régulièrement. Merci et bonne écoute de nos programmes.